l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Morris.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro d'Happy Boulot. Vous êtes bien sur BFM Business avec nous ce week-end, exceptionnellement, donc émission enregistrée cette semaine depuis Station F. On est à Paris, le plus grand incubateur d'Europe, à l'occasion de l'événement Impact PME sur BFM Business. On va parler d'alternance avec le DRH de la semaine, Dominique Laurent, chez Schneider Electric France, qui signe chaque année plus de 1000 contrats d'alternance. Il va venir nous raconter ça. Dans cette émission, nous répondons aussi aux questions que vous nous adressez avec l'aide de nos avocats en droit du travail. Aujourd'hui, on prend une question qui concerne les changements de rémunération. Est-ce que l'employeur peut changer la rémunération d'un salarié sans son accord? Vous verrez la réponse qui nous sera faite. Dans notre focus, on parlera du ghosting en entreprise, des candidats qui sont recrutés et qui ne donnent plus aucune nouvelle du jour au lendemain. C'est un phénomène grandissant, on en parlera. Et puis en fin d'émission, notre labo RH va vous aider à refaire votre CV grâce à l'intelligence artificielle avec le fondateur de CV Designer. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
Bonjour Dominique Laurent.
Bonjour Erwan.
Merci d'être là, DRH de Schneider Electric France. On est ravis de vous retrouver dans Happy Boulot. Je le disais, cette semaine, ce week-end, depuis Station F, dans le cadre de l'événement BFM Business Impact PME, on parle d'apprentissage avec vous. Parce que chez Schneider Electric, vous avez donc signé un accord d'alternance qui va entrer en vigueur très prochainement.
1er janvier 2024,
dans quelques semaines maintenant, avec pour objectif final d'encore mieux retenir les talents à la fin de leur contrat. C'est ça l'objectif, les faire rester.
Pas que. Alors, ce n'est pas le premier accord d'alternance d'apprentissage qu'on signe chez Schneider Electric. C'est le renouvellement d'un accord triennal qui existait déjà et simplement qu'on est venu enrichir d'un certain nombre de dispositions. Alors oui, l'un des objectifs, c'est d'améliorer le taux de rétention, notre capacité à embaucher les alternants qui sont venus se former chez nous. Mais c'est aussi toute une autre série de mesures. Il y a plein d'autres mesures dans cet accord-là, notamment mieux accompagner les alternants, mieux les rémunérer, mieux accompagner les tuteurs. Donc c'est vraiment un ensemble de dispositifs.
Donc c'est plus d'accompagnement, c'est plus de feedback aussi. Est-ce que c'est un élément qui manque encore, ça, quand on a un alternant et qu'on a un tuteur pour cet alternant? Il faut qu'il lui fasse des retours pour qu'il sache comment progresser.
Alors, c'est du feedback du tuteur vers l'alternant. Et ça, évidemment, on encourage et on forme nos tuteurs à ça. On a des formations pour ça. Puis c'est aussi du feedback, et pour nous, c'est très important, du feedback des alternants sur l'entreprise et sur les conditions de réalisation de leur alternance. Et tous les ans, on participe à une enquête qui est extrêmement importante, qui est l'enquête Happy Training, qui est organisée par Choose My Company. Cette année, on a figuré encore à la troisième place dans ce classement-là. Donc, c'est tout à fait satisfaisant pour nous, tout à fait important. Et puis, surtout, ça nous donne des marges de progrès. On sait exactement là où il faut qu'on progresse.
L'objectif, c'est aussi, Dominique Laurent, de mobiliser les managers pour que l'accompagnement soit le meilleur possible, que les alternants ne soient pas livrés à eux-mêmes, finalement. Parce que, alors, je ne sais pas si vous n'allez pas me dire que c'est comme ça chez vous, mais souvent, malgré tout, on recrute des alternants et derrière, il n'y a pas le service après-vente, si je peux dire vulgairement, mais on les accompagne pas comme on devrait.
Alors oui, vous avez raison, c'est toujours un risque, c'est toujours une dérive. Le fait que nous, on ait 1100 alternants sous contrat, c'est une énorme quantité d'alternants. On est obligé de s'organiser, on est obligé de travailler sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que si on ne le faisait pas bien, vous imaginez avec 1100 alternants, ça deviendrait très vite un bazar et une très grande source de démotivation et d'insatisfaction. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille tous les jours, tous les ans. Ça démarre depuis le premier jour, ce qu'on appelle « day one », jusqu'à leur sortie de leur mission d'apprentissage, d'alternance. Et là, on les accompagne, je le redis, on reforme et on forme régulièrement les tuteurs sur cette question-là.
Donc, ça passe par la formation.
Ça passe par la formation des tuteurs. Et surtout, ça passe par le fait que l'on invite nos alternants à nous donner beaucoup de feedback sur ça. Et c'est en ça que l'enquête Happy Training est très intéressante, parce que de façon très quantitative, à travers le temps, elle permet de quantifier, de vraiment nous donner un retour qualitatif sur le sujet.
Et les retours, ils sont bons ?
Alors, les retours, ils sont bons. On a progressé sur l'intégration. On avait, deux pain points qui étaient à la fois le premier jour. Et là, on a beaucoup progressé parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle des welcome days, maintenant des journées d'intégration. Donc là, on a progressé. Il faut qu'on continue de progresser sur les jours après la première journée et qu'on continue à être vraiment cette période d'intégration qui va durer 15 jours, un mois. Et puis après, qu'on travaille bien tout au long du parcours de l'alternant au sein de l'entreprise.
Bon, on a une vraie politique salariale qui est mêlée aussi à tout ça, à ce nouveau pacte avec l'alternant que vous mettez en place à partir du 1er janvier. Une prime de réussite, le remboursement des billets de train, l'accès garanti au télétravail. En fait, l'alternant devient un salarié à part entière avec les mêmes droits que n'importe quel autre
salarié. Alors, c'est
salarié.
Déjà un salarié en part entière, qu'à la différence du stagiaire, il est embauché sous un CDD, donc c'est un salarié avec une relation contractuelle à l'entreprise, à la différence du stagiaire qui a une convention de stage, c'est un peu différent. Et effectivement, on a aussi retravaillé sur tout le package financier, comme vous l'avez dit. Juste une chose que je préciserai que vous n'avez pas cité, c'est qu'on a en plus complètement revu nos grilles de rémunération et qu'on a augmenté de 6% l'ensemble de nos grilles de rémunération, on les a homogénéisées, on a travaillé dessus afin qu'il n'y ait plus de différence et que l'expérience de l'alternant au titre de sa rémunération soit aussi pleinement satisfaisante. Et l'enquête à Pitrini dont je parlais, la dernière édition qui est sortie il y a 15 jours, montre qu'on est sur cette question-là, au-dessus de notre benchmark dans notre groupe de référence.
Faire mieux que les autres.
Mieux que les autres, au-dessus du secteur de l'énergie. Donc ça, pour nous, c'est important aussi.
Bon, c'est un élément d'attractivité aussi, j'imagine.
Bien sûr.
Vous allez pouvoir le mettre en avant, cet argument, dire, regardez, si vous cherchez une alternance, voilà comment ça se passe chez Schneider Electric.
Oui, mais alors, on ne veut pas mettre que ça en avant. L'élément numéro un qu'on met en avant, c'est véritablement la mission de l'entreprise. Et là encore, cette enquête à Pitrini, désolé de revenir dessus, d'insister sur les questions de sustainabilité, de citizenship. On sort premier de notre catégorie et ça, pour nous, c'est probablement la plus belle des satisfactions.
Ça mobilise pleinement les équipes RH, j'imagine,
ils ont une belle campagne.
Complètement impliqués.
Ils sont occupés pendant quasiment 4 mois de l'année, je ne vais pas dire à plein temps sur le sujet, mais quand il s'agit de faire venir à bord pratiquement 1000 alternants chaque année, plus 700 stagiaires, je peux vous assurer que nos équipes RH et nos équipes Talent Acquisition, elles sont pleinement mobilisées sur le sujet.
Donc ils ont du travail, hein. Il y a du boulot là pour 2024. Mais ça veut dire aussi que vous êtes pleinement convaincu finalement par l'alternance.
Ah, nous, on a toujours été... Alors, l'engagement de Schneider Electric dans l'alternance, il remonte à plus de... Maintenant, il a quasiment 20 ans. Il avait été initié à l'époque par notre ancien président, Henri Lachmann, qui, à la demande du gouvernement, avait mené une mission au nom du gouvernement afin de mobiliser l'ensemble des entreprises, grandes entreprises, mais aussi les PME. Et je suis ravi aujourd'hui qu'on tienne cette émission dans un endroit qui célèbre les PME. Donc on avait vraiment, Schneider Electric avait été le leader, celui qui avait entraîné les autres entreprises sur le terrain de l'apprentissage.
Oui, justement, on est là aujourd'hui, vous le dites très bien, Dominique Laurent, DRH de Schneider Electric, pour célébrer les PME. Est-ce que des grands groupes ou des PME, côté RH, qui inspire qui ? Est-ce que
c'est un flux croisé, il faut être très honnête, c'est un flux croisé. C'est-à-dire que les grands groupes ont toujours peur de devenir trop grands et d'être un petit peu coincé dans des habitudes et dans des process qui deviennent un petit peu incapacitants. Donc on regarde toujours ce qui se fait dans les PME. Et nous, on organise régulièrement dans l'année sur toutes les fonctions ce qu'on appelle des learning expeditions, ce qui nous a donné souvent l'occasion de venir à la station F, qui est un endroit que nous connaissons bien, parce que nous y avons aussi des collaborations. Et puis les PME, pas plus tard qu'il y a un mois, nous avons reçu avec le Lab RH 7 PME, 7 start-up qui sont venues pitcher chez nous et aussi s'inspirer d'un certain nombre de nos pratiques. Donc c'est vraiment un flux croisé pour moi.
Pour terminer, le thème de cette journée organisée donc au cœur de Station F à Paris, Impact PME par BFM Business, c'est comment réussir 2024 côté RH. Dominique Laurent, comment est-ce que vous allez réussir 2024 ?
Alors, on va réussir 2024. Un des très gros enjeux aujourd'hui dans le domaine des RH, c'est vraiment la montée de l'intelligence artificielle. Alors, il suffit pas de le dire parce qu'il faut beaucoup travailler sur ce qu'on appelle des cas d'usage, ce que les anglo-saxons appellent des use cases. Donc ça va être un énorme chantier, un gros chantier aussi sur la gestion de la compétence. On travaille sur la compétence depuis 20 ans chez Schneider Electric, mais on est en train de tout remettre à plat sur la gestion de la compétence. Et un troisième gros chantier, et on fera un lancement officiel le 15 février là-dessus, au moment de la publication de nos résultats, on va travailler sur un nouveau système de performance management, donc d'évaluation de la performance au sein de l'entreprise. Et ça va être mondial, ça va concerner tous les pays au sein de Schneider Electric.
Merci beaucoup.
C'est moi, merci.
Dominique Laurent, d'avoir été avec nous au cœur de cette émission spéciale Happy Boulot depuis Station F. Je rappelle que vous êtes DRH de Schneider Electric France. Tout de suite, on appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, pour répondre à cette question avec vous tout de suite. Valérie, mon employeur peut-il changer ma rémunération sans mon accord ?
Alors, en théorie, non. Méfiez-vous des questions qui commencent par « mon employeur peut-il ?» parce qu'il y a quand même une distinction entre le pouvoir et le droit. Il peut, mais a-t-il le droit de le faire ? La réponse dépend, en réalité, du contexte dans lequel se situe cette modification proposée de rémunération. Soit il y a des difficultés économiques, et dans ce cas, l'employeur a le droit de proposer une modification de rémunération à la baisse, et dans ce cas, le salarié, vous, pouvez refuser Et à ce moment-là, puisque vous avez le droit de refus, l'employeur a lui le droit de licencier pour motif économique. Deuxième contexte possible, une insuffisance professionnelle et donc un changement de périmètre de vos attributions. Dans ce cas, là encore, l'employeur peut proposer, et si vous refusez, vous pouvez encourir un licenciement pour insuffisance professionnelle. Puisqu'en effet, quand on s'interroge sur les conséquences d'un refus d'une modification, eh bien, la gestion par l'employeur est essentielle. Si, en revanche, une modification de votre rémunération vous est proposée sans raison apparente et sans légitimité, alors dans ce cas, non seulement vous pouvez refuser, mais l'employeur qui prononcerait un licenciement sur la base de votre refus pourrait être condamné pour licenciement abusif.
Merci beaucoup Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocats. Continuez à nous écrire, une seule adresse pour ça, happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les entreprises qu'on appelle le ghosting. Ces candidats qui sont recrutés et qui ne donnent plus de nouvelles du jour au lendemain. Je parle des candidats, mais c'est aussi les recruteurs, parfois, qui ne donnent plus aucune nouvelle aux candidats. Malheureusement, et ben oui, ça arrive. On va parler de ça avec nos deux invités que j'accueille. Charles Chantala, directeur commercial chez Indeed France. Bonjour Charles.
Bonjour.
Bienvenue, on est toujours à Station F dans le cœur de, au cœur de cette journée émission spéciale autour des PME, Impact PME. Charles, vous avez récemment sorti avec Indeed une étude qui montre l'ampleur du ghosting en entreprise. On va en parler ensemble. Et avec nous également Mathias Jean. Bienvenue Mathias.
Bonjour, merci.
Vous êtes le fondateur de Tarento.
Exactement.
Agence de communication marketing RH, spécialiste des jeunes. Juste pour qu'on comprenne bien, là, mettre un mot. Un âge derrière les jeunes, c'est quoi aujourd'hui être jeune en entreprise?
Alors, nous aujourd'hui, on travaille sur la génération Z, donc je dirais moins de 30 ans.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est les publics souvent de stagiaires, alternants, jeunes diplômés sur lesquels on travaille.
Ça permet de poser un peu plus le cadre, parce que le ghosting concerne tout particulièrement les jeunes, c'est ce qu'on va voir dans un instant, on va en parler ensemble, mais avant ça, je vous propose d'écouter ce reportage de Léa Arrojo, une illustration très concrète pour voir de quoi on parle.
L'entretien d'embauche avait été passé haut la main. Le nouvel employé était attendu pour son premier jour, sauf que personne ne s'est présenté dans l'entreprise. Fatine Dallet, directrice exécutive de Michael Page, témoigne.
Sur un poste où le candidat devait manager une vingtaine de personnes, avait rencontré l'ensemble de son équipe, ses homologues, son N plus 1, son N plus 2, avait fait ce qu'on appelle des vies ma vie toute la journée en entreprise.
Ce cabinet de recrutement constate une augmentation du phénomène de ghosting. Les candidats ne donnent plus de nouvelles au cours du processus de recrutement. La pratique est plus fréquente dans les secteurs où les candidats sont rares.
On remarque ça davantage aujourd'hui dans des secteurs comme la technologie, l'informatique, le secteur de la santé, l'hôtellerie-restauration.
Selon la dernière étude publiée sur le sujet, 74% des candidats considèrent que les processus de recrutement s'étalent trop dans le temps. 40% ont même déjà renoncé à un poste à cause de la durée de recrutement qui est en moyenne de 9 semaines. D'après Elodie Gentina, enseignante-chercheuse en management, la pratique du ghosting est également liée à un changement du rapport des jeunes candidats au monde du travail.
On voit aussi que ces jeunes sont en recherche d'équilibre de vie, vie pro, vie perso, et donc ils ont un rapport global à l'engagement qui est déjà complètement différent. Ils sont moins engagés par rapport aux autres générations, je dirais plutôt un devoir de loyauté qui est différent.
D'autres raisons expliquent aussi la hausse du ghosting. Depuis la crise Covid, la dématérialisation du processus de recrutement implique moins les candidats.
Voilà, reportage de Léa Arrojo pour Happy Boulot. On voit bien dans ce qu'il vient de nous être montré, de ce qu'on a pu écouter pour ceux qui nous suivent en radio et en podcast, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Est-ce que c'est un phénomène récent, Charles Chantala, chez Indeed?
Alors c'est un phénomène en expansion, mais on peut pas dire qu'il soit récent. Le ghosting a toujours existé.
Mais on met des mots dessus aujourd'hui.
Voilà, on met des mots dessus sans doute parce que maintenant ce sont plutôt les recruteurs qui en sont victimes. En réalité, depuis 40 ans, on a 80 à 90% des candidatures qui restent sans réponse. Et donc les candidats ont toujours été victimes de ghosting. On assiste juste à un rééquilibrage finalement du rapport de force sur le marché du travail.
Mais là, la nouveauté, est-ce que c'est pas que on n'avait pas de réponse, et ça c'est très très ancien, le fait de ne pas avoir de réponse quand on candidate? Ce qui est peut-être un peu plus nouveau, vous allez nous dire, c'est que une fois qu'on a candidaté et qu'on a eu un contact avec le recruteur, le potentiel futur employeur, du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles.
Ouais, après ça, je pense que là, pour parler de la question notamment de la génération Z, et oui. On abordait le sujet de se dire est-ce que c'est les jeunes qui ghostent plus que les autres. Je pense que par rapport à ce qu'on a vu dans le reportage, faut pas se tromper de débat. Moi, je suis pas un fervent défenseur de la question des aspirations. Je pense que la vraie question dans l'expérience candidat et le recrutement aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement. J'aime bien prendre mon exemple. Moi, voilà, j'ai 24 ans. Depuis que j'ai eu l'habitude de commencer à consommer, notamment avec des applications en tant qu'expérience client, comme Uber Eats ou Uber pour commander un taxi ou quelque chose, bah, toutes les informations que j'avais, c'était la personne qui va me livrer, le stade d'avancement de ma commande, énormément d'informations où j'aime bien dire aujourd'hui aux recruteurs, est-ce que vous pensez que si vous proposez une expérience candidat comme l'expérience client aujourd'hui au candidat qui est peut-être plutôt un consommateur, vous allez avoir plus de chances ou moins de chances de le recruter. Et donc la question, elle est plutôt au niveau du mode de fonctionnement.
Mais aujourd'hui, le fait de ne plus donner de nouvelles en plein recrutement, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que le pouvoir est dans le camp du candidat ? Il peut se permettre en fait de couper le contact en pleine phase de recrutement, parce qu'en fait, il y a du travail ailleurs.
Ouais, c'est certain. Il y a deux leviers à l'œuvre. Sans doute qu'il y a un changement de relation au travail, de rapport au travail. Mais le premier facteur, vous l'avez dit, c'est sans doute cette chute quand même assez nette en seulement quelques années du taux de chômage chez les jeunes, qui a perdu 7 points. Alors, il partait de très haut, mais malgré tout, on a un rapport de force qui aujourd'hui est en faveur des candidats. Et donc, pour revenir sur ce que vous évoquiez, on a aussi du ghosting beaucoup plus tard dans le processus de recrutement, parce que ce moment où j'ai reçu une offre est très sensible. Il y a effectivement des candidats aujourd'hui qui font jouer la concurrence entre les entreprises. Qui, une fois qu'ils ont 2-3 offres en main, et on ne peut pas leur en vouloir, choisissent d'aller à celle qui leur offre le plus.
Bon, il y a cette étude que vous avez menée chez Indeed. Je voudrais reprendre un autre chiffre. C'est une étude de PageGroup qui nous dit que 3/4 des candidats considèrent que le processus de recrutement dure trop longtemps. Est-ce que ça aussi, c'est un paramètre qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus envie d'attendre qu'on nous rappelle. On attend parfois 3 semaines, 1 mois pour passer le second tour. Et en fait, quand on a autre chose entre-temps, parce qu'on a postulé à plusieurs offres, on va pas attendre qu'on nous rappelle.
Mais ça, c'est un sujet que j'adore, la question du temps, et notamment sur le sujet de la génération Z, mais toutes les générations de manière générale. En fait, il y a un nouveau rapport au temps. Il y a des études du CNRS qui ont montré que les écrans, depuis tout petit, et nous tous, aujourd'hui, on a tous des écrans et on est tous à portée d'écran, avaient en fait transformé ce sujet de la réactivité comme un besoin biologique, c'est-à-dire qu'on attend de la réactivité. Ce qui fait qu'en travaillant avec des partenaires, par exemple comme Bonanza, qui fait du recrutement sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte d'un chiffre qui était absolument fou. Les candidats aujourd'hui, le recruteur, s'il met moins de 6 jours à envoyer une réponse, il y a 80% des candidats qui répondent.
Ah bah oui.
Au-delà de 6 jours, ça passe à 30%. Et le chiffre, il est énorme et il montre qu'aujourd'hui, un des vrais combats pour contrer le ghosting, c'est d'être réactif en tant que recruteur dans son processus de recrutement.
Et parfois, c'est le recruteur, et moi je trouve que c'est encore plus étonnant, qui ne donne plus de nouvelles en plein milieu du recrutement. C'est-à-dire, on a été sélectionné pour un premier tour. Il va y avoir 10 candidats en lice. Et puis, du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles. Ça existe aussi.
Oui, ça existe et ça existe depuis bien plus longtemps. Au final, là, c'est des vieilles habitudes, disons, qui résistent en quelque sorte d'une époque où finalement, on pouvait se permettre d'avoir une expérience candidat de mauvaise qualité. On pouvait, en quelque sorte, se permettre aussi de dégrader sa marque employeur. Parce que quand on traite un candidat de cette manière, on oublie que déjà, ce candidat a des amis qui sans doute ont fait le même genre d'études, le genre de milieu, des candidats intéressants potentiellement. Et puis surtout, qu'une marque employeur et une marque commerciale sont souvent liés. Un candidat, c'est aussi un de mes clients potentiels sur lequel je suis en train de faire un trait.
Mais c'est un vrai problème RH quand même, non, de ghoster des candidats dans les chiffres qu'on voit. 47%, donc presque un recruteur sur deux, a déjà ghosté plusieurs fois un candidat. C'est-à-dire que c'est devenu une habitude pour certains recruteurs.
Ouais, bien sûr. Alors après, on peut pas jeter la pierre uniquement sur les recruteurs qui, dans certains cas, sont bombardés de candidatures de plus ou moins bonne qualité. Ils ont des emplois du temps qui sont particulièrement denses. Et donc, il peut y avoir parfois des loupés en quelque sorte. Mais c'est vrai que dans un monde où aujourd'hui, le rapport de force est ce qu'il est sur le marché du travail, où on a autant de pénuries, il est plus possible de gâcher autant de capital auprès de nos cibles potentielles.
Et dans l'étude que vous avez menée, Charles Chantala, chez Indeed avec Opinionway, on voit que les premières victimes, ce sont les moins de 35 ans, justement. On va en parler avec vous. Et les plus de 50 ans.
Oui, finalement,
en fait, c'est les jeunes et les seniors.
Les jeunes et les seniors, c'est-à-dire ceux qui, historiquement, sont les moins protégés, en quelque sorte, sur notre marché. En tout cas, les premiers à souffrir d'un univers où peut-être je peux me permettre d'avoir un comportement face aux candidats qui n'est pas idéal.
Bon, et les jeunes candidats, Mathias Jean, chez Tarento, ils sont moins loyaux aujourd'hui, ils sont moins fidèles à l'employeur.
J'aime bien cette question-là aussi, pareil, quand on vient
au
mode de fonctionnement.
Vous aimez toutes mes
questions. Mais le sujet là, du téléphone, j'aime bien parler de la génération swipe. Et encore une fois, quand on parle du mode de fonctionnement et pas des aspirations, on se rejoint tous, en fait, toutes les générations sur un nouveau mode de fonctionnement. On swipe, on passe hyper facilement à autre chose aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travers justement ces nouveaux comportements qui montrent aujourd'hui une fidélité qui s'est transformée? Je ne sais pas si fidélité, c'est le bon terme. Et qui fait que justement, bah voilà, on est passé à autre chose, bon, on ne répondra plus jamais et puis bah, c'est pas grave.
Surtout sur ce point, c'est vrai que le mot de loyauté qu'on a vu dans le reportage me fait un petit peu tiquer, parce que c'est un mot qui, je pense, n'est plus raisonnable d'attendre. On avait avant un paradigme où j'offrais ma loyauté en quelque sorte. En échange de quoi? En échange de la sécurité de l'emploi. Ce monde-là, il a vécu depuis déjà les années 70-80. Je pense
c'est
qu'on
plus comme ça.
Plutôt, ça ne veut pas dire que les collaborateurs n'ont plus envie de s'engager. Au contraire, on est face à une génération qui cherche un engagement fort dans l'entreprise.
Juste d'un mot.
Bah, hyper d'accord. Le sujet de l'engagement, je pense que c'est justement le mauvais terme qu'on peut pas utiliser. C'est pas une génération qui est pas engagée. On est hyper engagé pour la planète ou les autres sujets. Après, côté justement, on parlait tout à l'heure de l'alternance et du fait que je trouve quand même, notamment sur le sujet de l'alternance, on voit de plus en plus d'entreprises qui travaillent ces réponses candidats parce qu'elles savent que derrière, ça va être des transformations en CDI et donc que c'est un bon investissement.
Bon, juste d'un mot, mais personne n'aime se faire ghoster. On est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour inverser la tendance? En un mot.
Plus de transparence dans les informations fondamentales entre les candidats et les recruteurs avant la prise de poste. Et
Mathias Jean.
J'ai une ouverture mais qui est très particulière. Intelligence artificielle, sujet du moment.
Ça va nous aider ça ?
Est-ce que si demain tous les candidats comme potentiellement des entreprises aujourd'hui pouvaient faire des retours à toutes les entreprises auxquelles finalement elles n'iront pas, est-ce que ça résout la problématique du ghosting ? Je suis pas sûr parce que l'objectif final c'est d'avoir le candidat qui vient chez nous. Donc au final le sujet du ghosting, je pense que c'est vraiment un sujet de marque employeur et de vraiment réussir derrière dans tous les cas à être meilleur que tous les concurrents qui sont à côté.
Merci beaucoup d'être venu échanger là-dessus avec nous, sujet passionnant. On parle de tous ces sujets de société aussi dans société et entreprise dans Happy Boulot avec vous et avec nous aujourd'hui Mathias Jean, fondateur de Tarento, agence de communication marketing RH, et Charles Chantala, directeur commercial chez Indeed France. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Et on retrouve la TikTokeuse Adeline cette semaine qui nous présente aujourd'hui la RH confrontée à un grave problème dans les bureaux, le vol de nourriture.
Allez-y, installez-vous tous les deux, qu'est-ce qui se passe encore? C'est Véro qui a volé votre pâte à tartiner. Et c'était la seule chose positive dans votre vie. Oh là là, je sais pas quoi faire, elle m'a appelé les experts ou les castors juniors. Quoi Véro, c'est pas vous? C'est exactement ce qu'une coupable dirait. Jean-Michel, vous avez des preuves? Son bureau est à côté du frigo? Vous êtes fort Jean-Michel. Écoutez Véro, rendez le pot de pâte à tartiner à Jean-Mi et c'est réglé. Ah, vous voulez pas coopérer? Véro, je peux faire une retenue sur salaire, hein, moi je suis une ouve après, faut pas me chercher, hein. Véro, je suis déçue. Vous êtes coupable. Vous irez racheter un pot pour Jean-Mi. Non, trop facile ça. Vous êtes viré. Allez, voilà. Ça dégage où? Les deux, là. Ouh. Je suis colère, hein.
Happy Boulot, le labo RH.
En 4 minutes aujourd'hui avec Valentin Pouillard. Bonjour, Valentin.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de CVDesigner.com. Vous aidez les candidats à faire leur CV de manière très simple. Et grâce à de l'intelligence artificielle, bien sûr.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans intelligence artificielle? On ne fait plus grand-chose. Hein.
Ça aide à faire pas mal de choses, ça aide aussi à se recentrer. Et c'est des choses qu'on propose naturellement sur CV Designer, puisqu'on va s'adresser à tous les candidats qui vont chercher un emploi, un stage, une alternance, en leur proposant des ensembles de modèles. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. Ça fait notre 7e année qu'on commence à accompagner... 4 millions et quelques de candidats, donc ça commence à nous faire une certaine expérience. Et ces modèles-là, qui sont facilement interchangeables, s'adressent à tout type de population, tout type de profil, mais aussi tout type de projet professionnel. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'IA, l'objectif c'est de faire du personnalisé à une échelle nationale quand on accompagne 4 millions de candidats. Il n'est pas question que chacun ait un CV qui soit identique et qui soit formaté automatiquement.
Donc de l'IA pour qu'on comprenne bien, parce que moi je me dis votre solution elle peut être pratique pour peut-être corriger des fautes d'orthographe, pour mettre en avant des compétences qu'on n'aurait pas forcément valorisées spontanément comme ça sur son CV, un parcours ou une formation. C'est à ça qu'elle va servir l'intelligence artificielle ou c'est plus que ça?
C'est ça, mais c'est aussi un peu plus que ça. Comme je le disais à l'instant, l'objectif, c'est de faire du très personnalisé. Donc, c'est prendre en compte les objectifs professionnels du candidat, comprendre ses forces sur son CV pour essayer de les révéler au maximum. Donc faire ressortir des compétences, faire ressortir des savoir-faire, de manière à utiliser aussi des mots-clés qui sont sectoriels et qui vont taper dans l'œil du recruteur.
Mais comment l'IA est capable de faire ça mieux que nous, alors que c'est notre propre expérience, notre propre parcours ?
L'analyse de data. Principalement, 7 ans d'ancienneté de CV, c'est des dizaines, peut-être même des centaines de milliers, de millions de CV qu'on a à générer aujourd'hui et pour lesquels on va savoir détecter quelles sont les forces, quels sont les éléments qui vont intéresser les recruteurs de manière à les rapprocher de ceci. Puisqu'on n'oublie pas, le CV, c'est quand même l'arme pour décrocher l'entretien. Bien pas sûr. Le job, mais l'entretien.
Ouais, l'entretien, déjà le premier contact avec l'employeur, pour qu'il nous rappelle déjà.
C'est ça, c'est l'objectif.
Il y a beaucoup de solutions, hein, j'ai l'impression quand même... comme la vôtre, on peut facilement aujourd'hui faire son CV en ligne. C'est quoi votre plus-value ? Qu'est-ce qui vous différencie ?
On est gratuit.
D'accord.
On est français.
Comment vous vous rémunérez ?
Aujourd'hui, on a un modèle économique qui va transférer un peu la valeur auprès des entreprises. Et une de nos forces, c'est d'utiliser aussi l'IA pour sortir le meilleur des candidats, les mettre en relation avec des entreprises puisqu'ils ont la possibilité de diffuser leur CV auprès des recruteurs qui pourraient être intéressés par leur profil par une simple option. Oui, je souhaite être mis en relation avec les entreprises. Non, je souhaite continuer à construire mon CV de manière discrète. Si je
Donc, on ne paye rien quand on fait appel à vous ?
On ne paye rien.
Ça marche comment ? On se connecte, on crée un compte, on entre ces informations. J'imagine qu'il y a quand même un gros enjeu aussi de protection des données, parce qu'on va donner un certain nombre d'informations.
Absolument. Donc, c'est sur cvdesigner.com, inscription gratuite, toujours gratuite. On peut s'inscrire email, mot de passe, un compte de réseaux sociaux, y compris LinkedIn. Et ensuite, on va être onboardé pour saisir son projet professionnel et commencer l'expérience de création de CV. Ensuite, on se laisse vraiment guider, c'est hyper intuitif.
Et est-ce que, pour terminer, les candidats qui sont passés par votre service ont, au bout du compte, plus de chances de se faire recruter ?
Oui. J'ai naturellement envie de dire oui.
Oui.
Parce que on va les aider à formater un CV qui va non pas leur faire plaisir uniquement à eux. L'objectif, c'est qu'ils soient aussi pertinents et percutants pour l'usage qu'il prévoit d'en faire, c'est-à-dire postuler à des offres.
Mais donc en fonction de... Si par exemple je candidate à 3 offres différentes en même temps, le CV va être différent ?
On peut faire des variantes de CV, absolument. On va faire varier déjà le titre, c'est hyper important. Un titre, un CV, une offre, c'est des choses qu'on répète. C'est un peu casse-pied pour les candidats, mais c'est des choses qui vont permettre d'affiner et de montrer aux recruteurs qu'on est vraiment sur le bon canal.
Et tout ça aussi grâce à la tech, donc on l'a bien compris. Merci beaucoup Valentin Pouillard, fondateur de cvdesigner.com, d'être venu dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro spécial, vous l'avez compris, depuis Station F dans le cadre de la journée Impact PME organisée par BFM Business. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir tous les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.